Radio Okapi.
Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec l'actualité. Voici le principal titre du journal. Sankuru, 3 morts dans des affrontements autour d'une forêt. Un litige foncier entre les localités des Hiyambe et Osombo dégénère en violence meurtrière faisant plusieurs blessés et des dégâts matériels tandis que des policiers ont été séquestrés. Quand la rivière emporte nos morts, Cabinda dans la province de Lomami, face à l'impasse, des cercueils arrachés par les eaux des familles sous le choc, les autorités cherchent des solutions pour sauver la mémoire des disparus. 8 ans de SAC FM, Israël Matungulu, invité de Radio Okapi, dévoile le secret d'un média qui résiste. Directeur de programme de la radio communautaire de SAC, il nous parle des défis, de réussite et des ambitions de ce média au cœur du territoire de Massissi. Ne manquez pas cet entretien exclusif, restez à l'écoute. L'armée congolaise frappe fort. Plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC ont été arrêtés ces dernières heures. Selon le porte-parole des FARDC, ils sont accusés d'actes graves portant atteinte à la sûreté de l'État. Le porte-parole de l'armée, général Sylvain Ekenge, affirme que le dossier étant dans son étape préjuridictionnelle et pour éviter de violer les principes de secret d'investigation, il faut éviter d'énerver la justice. Cette information a été donnée lors d'un point de presse organisé ce samedi 22 novembre à l'état-major de l'armée à Kinshasa. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Une tension meurtrière dans la province de Sankuru. C'est vendredi, des affrontements entre habitants de localités de Hiyambe et d'Osombo dans les secteurs de Watambolo, territoire de Lodja, ont fait 3 morts, plusieurs blessés graves et causé d'importants dégâts matériels. À l'origine de ces drames, une querelle autour de l'appartenance d'une forêt. La situation a dégénéré au point que des policiers envoyés sur place ont été séquestrés et leurs armes arrachées par les protagonistes. Plus de détails dans ce reportage signé Esther Ndalafina.
Les premières informations parvenues à l'administrateur du territoire de Lodja indiquent que les habitants de Osombo et ceux de Hiyambe se disputent une forêt. Ceux de Osombo, munis d'armes blanches et de fabrications traditionnelles, sont allés attaquer les habitants de Hiyambe. François Mouledi se réserve de donner le bilan car les affrontements se sont produits dans un lieu non couvert par les réseaux mobiles. Toutefois, l'administrateur reconnaît qu'un groupe de policiers dépêchés sur place ont été par les habitants de Osombo avant d'être sauvés par un renfort. Cependant, des sources de la société civile, on annonce un bilan de 3 personnes tuées, plusieurs blessés graves, ainsi que des dégâts matériels importants. Quelques heures après les affrontements, les images des enfants et des femmes blessées circulent sur les réseaux sociaux. Une réunion urgente de sécurité a été présidée vendredi soir par l'administrateur du territoire de Lodja. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Poursuivons ce journal avec une alerte sur les violations de droits humains dans les territoires de Walungu. Le collectif des organisations locales de défense de droits humains tire la sonnette d'alarme face aux abus commis par l'AFC M23 contre les populations civiles dans 4 groupements. Selon ces organisations, des tueries en série surviennent à chaque affrontement entre le Wazalendo et l'AFC M23 dans cette partie du Sud Kivu. Les détails avec Richard Junior Kamunga.
Plus de 112 civils, enfants, hommes et femmes, ont été lâchement assassinés dans les circonstances post-affrontement. Les collectifs apportent qu'en plus de ces massacres, il y a aussi des femmes violées et des biens de la population civile pillés à grande échelle. Les rapports ajoutent que ces faits sont documentés depuis le mois de mars 2025 dans les groupements de Kanyola, Mulamba, Tubimbi, Kamisimbi et Nyangezi. D'après le même collectif, des organisations de défense des droits humains dans les territoires de Walungu, le cas le plus récent est celui de 2 membres d'une même famille arrêtés à Kanyola jeudi dernier après les affrontements qui ont opposé les Wazalendo au M23. Le collectif alerte l'opinion autant nationale qu'internationale pour que ces 2 personnes détenues injustement soient libérées et remises à leurs familles sains et saufs. Depuis leur arrestation dans leur village du groupement de Kanyola, leurs proches n'ont plus de leurs nouvelles.
Dans la province du Tanganyika, 7 cas de féminicide ont été recensés en l'espace de 3 mois dans la ville de Kalemi, selon la nouvelle dynamique de la société civile Chumvi à Congo. Dans une déclaration faite ce samedi à Radio Okapi, le coordonnateur provincial adjoint de cette structure déplore ces violences conjugales qui ont coûté la vie à 7 femmes, toutes tuées par leur mari. Chirac Issa précise que le dernier drame s'est produit au quartier Moulengi, dans la commune de Lukuga, où une femme victime de violences conjugales a été tuée à la machette par son époux. Elle laisse derrière elle 9 enfants. On écoute Chirac Issa au micro de Paulin Munanga.
Ces crimes viennent de se passer au sein de Moulengi, où un homme a utilisé sa machette pour tuer sa femme. Et elle est morte sur les champs. Nous condamnons avec toute notre dernière énergie, puisque c'est un crime tuer un être comme ça à base de quoi, des machettes. Ce n'est pas aussi facile. Voilà pourquoi nous sommes en train d'interpeller les instances judiciaires à faire leur travail et que l'auteur réponde, puisque c'est un crime qu'il vient de faire. Normalement, on ne se serait pas d'interpeller aux hommes d'abandonner ce genre de pratiques, puisque on sent que la violence conjugale bat record au sein de notre ville de Kalemi et aux environs. C'est comme un dernier cas qu'on a enregistré au sein de l'Oxetra Béton, où un homme a utilisé aussi le machette pour tuer sa femme. Donc, nous déplorons ce genre d'événements et nous interpellons aux hommes. Et ils doivent comprendre que les femmes, ce sont les êtres qui doivent être protégés de tout le monde.
Contactée, la chef de division provinciale du genre, famille et enfants du Tanganyika reconnaît la recrudescence de violences conjugales à Kalemi, mais indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir des chiffres pour l'instant. Restons dans la province du Tanganyika avec une nouvelle inquiétante. 2 cas de vindicte populaire ont été enregistrés en seulement 24 heures dans la ville de Kalemi. Le dernier drame s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi. Un présumé voleur a été brûlé vif par une population en colère. Ce lynchage survient alors que Kalemi fait face à une recrudescence de la criminalité. Le point avec Paulin Munanga.
À Kalemi, le dernier cas de justice populaire s'est produit au quartier Solo. Les jeunes du quartier se sont mobilisés et effectuent des patrouilles nocturnes. C'est ainsi qu'ils ont réussi à appréhender un présumé voleur, indique des sources locales. Nathan Mugisho, coordonnateur provincial de l'association Umoja Ninguvu dans le Tanganyika, revient sur les circonstances de la mort des 2 présumés voleurs qui ont été appréhendés par la population.
Tout le matin vers 5h, il y a un présumé voleur qui a été retrouvé en pleine herbe, en train de se cacher. Pourtant blessé, et la colère, la furie de la population s'est directement manifestée, et on a vu des images comment le monsieur était lynché, il a été brûlé vif la nuit du 20 au 21, soit hier, au niveau de la cité, sous l'avenue Tatanabana, dans la commune Kalemi. Il y a un présumé voleur qui a été aussi attrapé par la population. Le présumé voleur était lynché et puis brûlé vif, et il est décédé.
Nathan Mugisho ajoute que c'est au total 5 morts qui sont enregistrées cette semaine dans la ville de Kalemi à la suite de la criminalité. 2 personnes ont été tuées par des bandits armés, 1 corps sans vie a été découvert et 2 présumés voleurs tués par la population. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
En Ituri, le chef de la milice Zahir Baraka Amos a trouvé la mort jeudi dans un accident de circulation en Ouganda. Son groupe armé actif dans le territoire de Djougou est allié à la Convention pour la Révolution Populaire CRP de Thomas Lubanga est régulièrement cité dans de graves violations de droits humains. La milice contrôlait également plusieurs sites miniers, dont celui de Mabanga, utilisé pour financer la guerre contre la République. Les détails avec Isaac Remoyope.
Selon plusieurs sources, le leader de ces groupes armés s'était rendu en Ouganda pour des raisons encore non élucidées. Certaines informations indiquent toutefois qu'il aurait rencontré des membres de la CRP de Thomas Lubanga installés en Ouganda afin de redynamiser leur mouvement armé actif contre les FARDC du côté de Nyamamba et Kafé dans la plaine de la Calbert ainsi que dans d'autres localités du territoire de Djougou. C'est sur le chemin de retour en direction de Buguma, une localité ougandaise proche de la Calbert, que la voiture à bord de laquelle il voyageait avec ses proches est entrée entrée à collision avec un camion. Aucun occupant n'a survécu. La fatigue au volant serait à l'origine de cet accident. La milice Zaïre, signataire de l'accord de paix Darou du 28 juin 2025, contrôlait auparavant plusieurs localités minières du territoire avec son bastion à Mabanga, une zone riche en minerais. Depuis juin dernier, ce groupe armé a été délogé par les FARDC qui occupent désormais la région. La milice Zaïre est l'un des groupes armés cités dans de nombreux cas de violation des droits de l'homme, notamment dans les rapports du groupe d'experts des Nations Unies. Bounia, Isakare Moyope, Radio Kapi.
Une scène qui glace le sang à Kabinda. Depuis jeudi, le cimetière des Bundouki, dans la province de Lomami, est en péril. Les eaux déchaînées de la rivière Kabondo ont envahi le site funéraire. Après de violentes pluies, le lit de la rivière s'est déplacé de plusieurs mètres, emportant cercueils et dépouilles mortelles. Face à cette catastrophe qui choque la population, le vice-président de l'Assemblée provinciale s'est rendu sur place avant de convoquer une réunion d'urgence avec le vice-gouverneur pour trouver des solutions durables. Les détails avec Esther Ndalafina.
Au cours de la visite de ce cimetière, le député provincial Hippolyte Kabango, vice-président de l'Assemblée provinciale de Lomami, a fait un constat amer.
Le constat est vraiment amer. Il faut des solutions urgentes. Et apparemment, il y a aussi des petits conflits coutumiers de gestion de ce cimetière ici. Au-delà de ça, il faut essayer d'éviter la déviation de la rivière Kabondo, de remettre sur son lit d'antan et permettre de sauver les tombes qui sont encore restées intactes. On ne mérite pas cette situation. Il faut le corriger tout de suite.
Le vice-président de l'organe délibérant a du coup convoqué une réunion d'urgence. Quelques décisions ont été prises, affirme le vice-gouverneur.
Il faut inviter l'office de route qui est notre service technique. Il doit d'abord aller remettre l'ancien lit de cette rivière-là. Et enfin, nous disons à la population de ne plus enterrer présentement les morts là-bas. Ça, c'est une mesure conservatoire. Nous demandons à la population de ne pas utiliser cette eau-là pour la consommation.
Signalons que certains habitants ont retrouvé les corps des membres de leur famille et d'autres les ont exhumés pour les enterrer à d'autres endroits. Les secouristes de la Croix-Rouge sont mis à contribution pour éviter la propagation des maladies. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
À Kisangani, la justice fait son rentrée avec solennité. Vendredi, dans la salle des audiences de la cour d'appel, les acteurs judiciaires de la province de la Tchopo ont réaffirmé leur engagement à servir la justice. Cette cérémonie officielle a réuni des personnalités de premier plan, magistrats, responsables politico-administratifs, militaires et policiers, ainsi que le gouverneur intérimaire de la Tchopo, Didier Lomoyo Iteku. Un reportage signé Jacques Mukonkole.
Intervenant en premier au cours de cette cérémonie, le bâtonnier maître Aubin Akamba, dans son allocution, fustige la surpopulation carcérale à la prison centrale de Kisangani. Il plaide pour la dignité de ses pensionnaires.
Qu'est-ce que l'indignité? C'est quand un être humain, même privé de liberté, est contraint de dormir sous un matelas au sol, dans une promiscuité constante et insalubre. C'est l'impossibilité d'accéder aux soins.
Pour sa part, dans sa mercuriale, le procureur général près la cour d'appel de Kisangani planche sur la liberté d'expression. Certains compatriotes la confondent au libertinage. Albert Lusumbe enjoint les magistrats à faire respecter et protéger les lois de la République.
Les offenses envers la très haute autorité du pays, les outrages envers les autorités publiques et les propagations de fausses informations et de faux bruits doivent être réprimés sans relâche.
Enfin, dans son discours, le premier président de la cour d'appel de la Tchopo se dit interpellé par la récurrence des instructions de l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires. Selon Dominique Mande Mobiai, celui-ci semble ignorer ses missions traditionnelles. Si ses services continuent à ramer à contre-courant, il y a risque qu'il s'érige en troisième degré de juridiction, ce qui est illégal, souligne Dominique Mande Mobiai. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
À Bounia, la justice se rapproche de plus vulnérables. Ce vendredi, la MONUSCO a remis un bâtiment flambant neuf destiné à abriter le bureau de l'Ituri ainsi que le bureau de consultation judiciaire et juridique gratuite pour les personnes démunies. Financé dans le cadre d'un projet à impact rapide, cet ouvrage vise à garantir un accès équitable à la justice, renforcer l'état de droit et contribuer à la restauration de l'autorité de l'État dans la province. Isaac Remoyope nous en dit plus.
Les bâtiments opérationnels depuis vendredi comprend une salle de réunion, les bureaux du président, des salles de consultation, un secrétariat ainsi que des installations sanitaires. Jusqu'ici locataire depuis sa création en Ituri, les barreaux disposent désormais d'un espace qui améliore les conditions de travail des avocats, mais surtout l'accompagnement des personnes vulnérables dans cette zone touchée par les conflits armés, avec comme conséquence la paupérisation de la population. Une action qui vise à promouvoir un accès équitable à la justice. Désiré Baloumé de la section d'appui à la justice de la MONUSCO.
Votre mission révèle également une dimension sociale essentielle, celle de protéger et défendre le plus vulnérable et de contribuer ainsi activement au processus de pacification, de stabilisation et de bien-être de la population civile en Ituri.
Selon le président du barreau de l'Ituri, cet ouvrage est le résultat d'un partenariat avec la MONUSCO pour renforcer les services d'aide juridique, en particulier pour les plus vulnérables. Maître Joseph Keta.
C'est donc une joie immense sur le plan professionnel qu'un barreau digne de son nom puisse être doté d'un bâtiment adéquat. Donc c'est le gage d'assurer l'accès à la justice à tous, surtout aux plus vulnérables.
Plusieurs autres partenaires ont également contribué à la réalisation de ces bâtiments. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le G20 s'ouvre à Johannesburg sur fond de consensus et un discours en faveur du multilatéralisme. Dès l'ouverture du sommet ce samedi, marqué par l'absence des États-Unis et le boycott de Donald Trump, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé une avancée majeure, l'adoption d'une déclaration commune par consensus, une victoire pour la première présidence africaine du G20. Pretoria s'en félicite, soulignant que cette annonce anticipée, habituellement faite en clôture, envoie un signal fort au monde. Dans son discours, Ramaphosa a exalté la valeur du multilatéralisme, affirmant que ce consensus prouve que la coopération internationale peut produire des résultats et promettant de ne laisser aucun pays ni aucune communauté de côté. La déclaration publiée par le gouvernement sud-africain appelle à une paix juste, complète et durable dans plusieurs zones de conflit, Soudan, RDC, territoire palestinien, Ukraine et ailleurs, conformément aux principes de la charte de l'ONU. Une communication soigneusement orchestrée par Pretoria pour marquer l'histoire et renforcer le prestige de cette présidence africaine.
L'invité.
L'invité de Radio Okapi, Israël Matungulu, une voix au cœur de la résilience médiatique, directeur de programme de la radio communautaire Sake FM, émettant depuis la cité des Sake dans le groupement Camorons à territoire de Massissi en Nord Kivu. Il revient sur 8 années d'existence de ce média né le 17 novembre 2017. Entre défis quotidiens et perspectives d'avenir, découvrez les atouts qui font de Sake FM un pilier de proximité pour la communauté. Un entretien réalisé par Chris Mukande.
Ismaël Matungulu, bonjour.
Bonjour Radio Okapi, bonjour Chris. Je suis Ismaël Matungulu, le directeur de la radio communautaire Sake FM, émettant dans la province du Nord Kivu, précisément dans le Goma de Kamurunja, à 27 km de la ville de Goma.
Voudriez-vous nous présenter succinctement la radio communautaire Sake FM? Comment le projet est né? Comment s'est-il développé?
La radio communautaire Sake FM est une radio périmat communautaire née de l'initiative de leaders communautaires et la population de Sake en groupement Kamurunja dans le territoire de Massissi suite à l'enclavement de ce coin du territoire de Massissi qui avait depuis longtemps besoin de cet outil de communication. C'est ainsi que nous avons installé cette radio depuis le 17 novembre 2017. Ça fait 8 ans et par des contributions des membres de la communauté de Kamurunja, précisément à Sake.
Quelles sont les principales thématiques que votre média exploite dans un milieu urbano-rural comme Massissi?
Vous savez, ça fait au moins 30 ans que nous n'avons pas la paix ici chez nous, au Nord Kivu, mais aussi à l'est de la République démocratique du Congo. C'est pour cela que nous organisons de différents thèmes par rapport avec la paix, la cohabitation pacifique. Comme vous le savez, dans les territoires de Masisi, il y a plusieurs communautés, hein. Notamment, il y a les Nande, il y a les Havu, il y a les Tembo, il y a les Hunde, il y a les Nyanga, il y a les Tembo. C'est pour cela, nous organisons les thèmes de la cohabitation pacifique parce qu'on ne savait pas la mentalité de chacune de sa communauté. Il y a des émissions qui cadrent avec égalité du genre. Il y a aussi la favorisation de nos cultures, la bonne gouvernance et un cadre de divertissement de la communauté de Masisi, longtemps vivant les affres de la guerre.
Sans tomber dans l'autosatisfaction, dites en quoi la radio communautaire SAC FM a impacté son environnement.
La radio SAC FM a impacté très positivement en notre environnement par ses diverses émissions. Il y a divertissement et un espace d'échange qu'elle offre à la communauté pour encourager un développement durable.
Des difficultés?
La radio communautaire SAC FM fait face à plusieurs difficultés, surtout d'ordre technique. Il y a vol de ses matériels et pendant la guerre de 2024 à SAC. Il y a aussi manque de personnel qualifié, d'où la nécessité d'une capacitation.
Y a-t-il des défis à relever?
Comme défi, c'est d'avoir un personnel qualifié et renforcer le matériel pour améliorer la qualité de ce service et offrir une offre de qualité à notre auditoire.
Quelles sont les perspectives de la radio communautaire SAC FM?
Devenir une grande chaîne de communication pouvant arroser le Nord Kivu et le Sud Kivu, avoir aussi un personnel qualifié, créer aussi un site web à notre radio pour nous permettre d'être écoutés partout au monde, comme vous la radio Kapi.
Un message à vos auditeurs, un mot à vos partenaires.
Nous remercions sincèrement nos auditeurs pour le soutien en des moments difficiles, car il est arrivé des fois où la radio SAC FM ne pouvait pas fonctionner. Mais c'est grâce aux encouragements de nos auditeurs que nous avons enduré. C'est grâce également à quelques organisations qui interviennent dans le domaine des médias, notamment Coracon, que nous remercions, collectif des radios et télévisions communautaires du Nord Kivu. On n'est pas oublié la radio Kapi, car la radio Kapi par pied nos défis vulgarise aussi nos difficultés. C'est pour cela, nous remercions aussi la radio Okapi, la radio SAC FM qui vient de réaliser 8 ans d'existence dans le territoire de Masisi, précisément dans le Goma de Kamurunza, malgré ses défis à cause de la guerre, mais nous en irons toujours.
Ismaël Matungulu, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
C'est à nous de remercier la radio Okapi.
Israël Matungulu, directeur du programme de la radio communautaire SAC FM, émettant depuis la cité de SAC dans le territoire de Masisi au Nord Kivu, répondait aux questions de Chris Mukonda à l'occasion du 8e anniversaire de cette radio créée en 2017. Il nous a parlé de défis et de perspectives de ce média de proximité. C'est ainsi que se clôture ce journal sur Radio Okapi. Gisèle Kaj était à la présentation dans une mise en onde de Pierre Diassinois. Nous vous remercions de votre fidélité. Espérons vous retrouver pour une nouvelle édition. À très bientôt.